Vous écoutez Le Chantier ?
Oui, 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 on fait de la politique avec un grand P.
Il est 8h.
Le Chantier. Merci d'être avec nous. Nous sommes le mardi 22 juin 2021. Vous écoutez Le Chantier, vous avez bien raison. La matinale débute à 8h chaque jour avec le journal de Radio France Internationale. On ne va pas déroger à cette règle aujourd'hui. Voici le journal présenté par Benoît Almérias.
L'Afrique, face au coronavirus, au moins 4 variants circulent au Sénégal. L'Afrique du Sud accueillera le premier site de production de vaccins à ARN messager du continent. Le train de sanctions contre la Biélorussie après le détournement de l'avion Vilnius-Athènes. Les puissances occidentales frappent Minsk au portefeuille. L'après premier tour des régionales en France, la droite s'offre une bouffée d'air après une campagne sous pression. Le procès du cyberharcèlement de la jeune Mila, 13 prévenus risquent 3 ans de prison pour menace de mort. Et enfin, après des mois de couvre-feu sanitaire, les concerts vont pouvoir reprendre en France. 4 variants du coronavirus circulent actuellement au Sénégal. L'Institut Pasteur de Dakar a identifié le variant alpha dit britannique, le bêta dit sud-africain, le delta détecté en Inde, mais aussi une souche mutante en provenance du Nigeria. Charlotte Hydrac, vous êtes notre correspondante à Dakar. Les autorités sanitaires sénégalaises appellent à une accélération de la vaccination et à la vigilance contre la maladie.
Rassemblements politiques, sportifs, manifestations, concerts pour la fête de la musique, souvent sans masque ni distance. Les autorités sanitaires notent un sérieux relâchement dans les gestes barrières. L'apparition de 3 nouveaux variants est pourtant préoccupante, selon l'Institut Pasteur de Dakar. En avril-mai, 275 échantillons testés positifs ont été analysés sur des voyageurs quittant le territoire. Sur près de 59%, il s'agissait de variants, en grande majorité nigérians et britanniques. 2 cas de variants indiens réputés particulièrement contagieux ont aussi été identifiés. Alors, faut-il craindre une hausse des cas ? Docteur Ousmane Faye, chef du département de virologie à l'Institut Pasteur.
Actuellement, on a constaté un peu une baisse en termes de nombre de cas. Mais ces derniers jours, on voit également qu'il y a une petite remontée. Les épidémiologistes, déjà à travers ces variants qui ont circulé, ils ont commencé les enquêtes pour voir est-ce qu'il y aurait effectivement une transmission assez importante. En tout cas, ça pousse à donner ce message. Le respect des mesures barrières, et la vaccination.
À ce jour, près de 500 000 personnes seulement ont été vaccinées au Sénégal. Avec la réception récente de nouvelles doses, les autorités sanitaires espèrent relancer la campagne et le pays ambitionne de se lancer dans la production de vaccins anti-Covid horizon premier trimestre 2022. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI.
Et ces ambitions sénégalaises pourraient être exaucées. La patronne nigériane de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, indiquait lundi que le pays d'Afrique de l'Ouest, le Rwanda et l'Afrique du Sud sont considérés pour accueillir des sites de production de vaccins sur le continent. L'Afrique du Sud, qui a par ailleurs annoncé lundi la création d'un site de transfert de technologie des vaccins à ARN messager contre le Covid-19. Mais pour le président Cyril Ramaphosa, ce projet prendra du temps à être concrétisé. Le vaccin russe Sputnik V protégerait contre tous les variants du coronavirus. C'est en tout cas ce qu'assure son concepteur, le scientifique Alexandre Ginsburg. Officiellement, un Russe sur 10 est complètement vacciné contre la maladie. La Biélorussie percutée par un train de sanctions occidentales. L'Union européenne, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont annoncé avoir placé plusieurs dizaines d'hommes politiques et entreprises proches du président Alexandre Loukachenko sur leur liste noire. Réplique après le déroutement forcé du vol Ryanair Athènes-Vilnius et l'arrestation du journaliste d'opposition Roman Protasevich. Le premier ministre suédois est renversé. Stefan Löfven a subi une motion de défiance historique au Parlement de Stockholm ce matin. Il devra donc démissionner la semaine prochaine. Après 3 ans au pouvoir, le dirigeant social-démocrate a payé la dislocation de sa coalition de gauche déjà fragile. Un récit de notre correspondant dans la capitale suédoise, Frédéric Faux.
181 voix pour le vote de défiance, 109 contre, 51 abstentions. La Chambre a approuvé la demande de motion de censure contre le Premier ministre.
C'est une première dans l'histoire de la Suède. Ce lundi matin, le gouvernement du social-démocrate Stefan Löfven est tombé, renversé par un vote de défiance qui a obtenu une large majorité. C'est une crise à laquelle tous les Suédois s'attendaient. Suite à des élections très serrées en 2018, Stefan Löfven avait mis 4 mois pour former un gouvernement minoritaire avec les sociaux-démocrates, 2 petits partis du centre-droit et le soutien tacite de la gauche radicale. Un convoi hétéroclite qui a tenu 2 ans et demi. l'économie, mais qui a déraillé ce lundi. L'insurrection est justement venue de cette gauche radicale qui a refusé de soutenir le gouvernement sur un projet d'encadrement des loyers pour les logements neufs et qui a mêlé ses voix à celles de la droite et de l'extrême droite. Stéphane Leuven s'est donné une semaine pour réfléchir avec ses partenaires aux deux options qu'il lui reste. Soit permettre au Parlement de se mettre d'accord sur un nouveau Premier ministre, soit convoquer de nouvelles élections dans les 3 mois. Frédéric Faux, Stockholm, RFI.
Le premier ministre arménien Nikol Pachinian le sort quant à lui renforcé après sa victoire lors des législatives du week-end passé. Devant ses partisans réunis à Yerevan lundi, le chef du gouvernement a remercié le peuple de lui avoir donné un mandat d'acier pour une dictature de la loi et du droit. Nikol Pachinian qui doit entamer des discussions ce mardi avec d'autres partis pour former une coalition. La droite française sort revigorée des régionales. Les têtes d'affiche conservatrices Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou encore Laurent Wauquiez ont toutes cartonné au premier tour dans leurs régions respectives. Anne Souhaitement, après plusieurs semaines de dissension, le parti Les Républicains souffle avant, toutefois, la primaire des présidentielles.
Nous sommes, et de très loin, le premier parti de France.
Christian Jacob, le sourire aux lèvres. Et pour cause, sur 7 présidents sortants de droite, 6 sont arrivés en tête au premier tour. La droite peut donc respirer. Mais pas trop longtemps, prévient Julien Aubert.
On a vraiment intérêt maintenant, après le second tour, à se mettre autour d'une table et à trancher pour que nous ayons une incarnation et pas plusieurs.
Car s'il l'emporte dimanche prochain, Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez pourraient passer la seconde. Xavier Bertrand est lui déjà candidat, remettant d'actualité la question de la primaire. Question épineuse, reconnaît François-Xavier Bellamy.
Chaque chose en son temps.
Mais prématurée pour Christian Jacob.
Les régionales sont les régionales et les présidentielles, c'est autre chose. Et ça n'est pas le moment d'en parler.
Attention toutefois à ne pas trop attendre, met en garde l'ancien patron du parti Jean-François Copé.
J'espère que la droite saura, avec méthode, avec rigueur et avec concentration, s'organiser pour éviter la machine à perdre.
Et alors,
voilà.
Comment on fait ?
Suite au prochain numéro.
À 10 mois de la présidentielle, la droite n'en a pas fini de faire son cinéma.
Toujours en France, le procès du cyberharcèlement de la jeune Mila a repris ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. 13 prévenus encourent jusqu'à 3 ans de prison pour avoir menacé l'adolescente de mort en début d'année dernière. Alors âgée de 16 ans, Mila avait critiqué l'islam sur Instagram et subi des milliers de messages d'insultes et donc de menaces sur les réseaux sociaux. Écoutez l'avocat de l'adolescente, maître Richard Malka, admiratif de sa cliente.
J'ai rarement vu quelqu'un qui avait autant de cran. C'est ça qui l'a défini. C'est une pureté, c'est un trésor, c'est rare. Elle a été d'une intégrité incroyable, d'une profondeur. À son âge, à 18 ans, elle a tenu 2 heures sous le feu roulant des questions. Elle a été émouvante, elle a été intelligente, elle est tombée dans aucun des pièges qu'on voulait lui tendre. Et voilà, je la trouve absolument exceptionnelle.
Des propos recueillis par Alice Rouja. La chouille fait son retour en France après 1 an et demi de fermeture en raison de la pandémie. Les discothèques vont de nouveau pouvoir accueillir des fêtards le 9 juillet prochain. Le gouvernement l'a annoncé lundi. Les concerts debout seront eux aussi de nouveau autorisés. Mais ça, dès le 30 juin, sans limite de spectateurs en extérieur. Condition, être vacciné ou avoir un test PCR négatif. Le récit d'Isabelle Chenu.
C'est officiel, c'est le retour de la fête. On pourra cet été en France assister à un concert debout ou à un festival en plein air, presque comme avant l'épidémie. Si le port du masque reste recommandé, il n'est pas obligatoire. Seule restriction, le pass sanitaire. Il est exigé pour tous les rassemblements de plus de 1000 personnes, quelle que soit la configuration. Rappelons que pour obtenir ce pass sanitaire, il faut soit être totalement vacciné, soit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, soit avoir un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois. Le gouvernement précise qu'une jauge de 75% reste obligatoire dans les salles de concert en intérieur et dans les boîtes de nuit. Les discothèques doivent elles aussi rouvrir le 9 juillet après 15 mois d'arrêt total. La levée de ces restrictions est la meilleure nouvelle depuis mars 2020, estiment les professionnels. Reste à savoir maintenant si les spectateurs seront bien au rendez-vous avec leur passe sanitaire en poche.
L'Euro de football, pour finir, on connaît les noms des 7 nouveaux qualifiés après les matchs de lundi. Dans le groupe B, après la Belgique, le Danemark a validé son ticket sur le terrain en balayant la Russie 4-1 à Saint-Pétersbourg. jour. Dans le groupe C, l'Autriche accompagne les Pays-Bas après sa victoire 1-0 contre l'Ukraine. Conséquence de ces résultats, la France, la Suisse, la Suède, l'Angleterre et la République tchèque sont assurés de se qualifier. Ils termineront au pire meilleur troisième.
Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. C'était le journal de Radio France Internationale. Vous écoutez Le Chantier, c'est la matinale.
On est déjà là sur Le Chantier. C'est la matinale. Benoît Bouscarel. Déjà là.
Au programme de cette matinale, beaucoup de bonnes choses. Évidemment, la super musique du chantier. Ça s'appelle la sélection du chantier, si vous voulez tout savoir. Et puis, en invité, nous aurons tout à l'heure Gilles Daminviel, qui est responsable à l'Institut français de la mode. Il nous parlera de l'habillement des Français et on va parler du Made in France. C'est une série en ce moment sur le Made in France, sur le chantier. Nous serons aussi avec Romain Barre tout à l'heure du Damier pour nous parler de l'incubateur culturel que lance le Damier pour la deuxième année. Et puis on sera aussi avec les colleuses tout à l'heure. Voilà le programme. Et puis évidemment, il y a aussi l'album du chantier. C'est celui d'Animal Triste cette semaine.
Le chantier.
Et de cet album et de l'esprit du groupe Animal Triste, on va parler avec Mathieu Pigné, qui est membre fondateur, juste avant de retrouver un titre de cet album qui s'appelle Amor Bay.
Spontané et quelque part, justement, c'est la partie sensible de ce projet. Animal Triste, on va dire que c'est le côté triste. Et c'est clairement ce que je recherchais en termes d'influence. Le morceau était très beau à l'origine et je voulais vraiment que ce soit produit façon... ça peut sortir d'un film de David Lynch, par exemple, avec tous ces thèmes de Badalamenti, l'homme qui se cache derrière la musique de Twin Peaks. Et voilà, et n'ayons pas peur des références. Ça peut aller même limite du côté de Duran Duran, quoi. Alors qu'on a des références bien plus obscures. Mais ouais, c'est un très joli morceau et qui a une place particulière dans mon petit cœur. Voilà. Walking in the park of Amor Bay, not a soul or emotion, and the rage of the ocean away. Snow was covering the ground, I could only hear the sound of your breathing. Tender kisses on the cheek, and the tigers on the streets were racing. Don't worry, warming up in the black sands of Amor Bay. I can't give you what you want, angel, in Amor Bay. In the cold and in the dirt, you removed your plate and said, please. A red army on the walls, a world which stumbles and falls on its knees. Don't worry, warming up in the black sands of Amor Bay. I can't give you what you want. We'll be right back.
Jusqu'à 9h, la matinale du chantier.
Caribou sur le chantier. On va retrouver notre premier invité, Gilles Daminviel, avec Christophe Rossignol.
Sur le chantier, semaine spéciale Made in France. Que produit-on? Qu'importe-t-on? Telles sont les questions. En matière d'habillement, la France importe pour 21 milliards d'euros et exporte pour 11 milliards d'euros. Des chiffres impressionnants, mais qui surtout interrogent. L'importation est donc plus forte que l'exportation. Comment expliquer ce phénomène? Qu'en est-il réellement du marché de l'habillement en France? Avec nous, pour nous éclairer, Gilles Daminviel, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Bonjour Gilles Daminviel.
Bonjour.
Pour poser les bases claires, qu'est-ce qu'on entend par habillement dans l'économie?
Alors, l'habillement, ce sont les vêtements, c'est-à-dire ce sont des vêtements qui peuvent être à la fois en chaîne et trame, c'est-à-dire c'est des vêtements qui sont en tissu, par exemple des chemises sont des vêtements en tissu, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les vêtements en maille, comme les t-shirts ou éventuellement les sous-vêtements ou les pull-overs, bien sûr.
Concrètement, en France, quelle est la part du marché français, donc de l'habillement, qui est consommée par les Français?
Alors, en France, on a un marché en 2019, on va prendre la dernière année normal, entre guillemets, qui s'élève à 30 milliards d'euros. On estime que dans les 30 milliards d'euros, si vous voulez, vous avez grosso modo 3% qui correspond à du Made in France. C'est une estimation parce que c'est très difficile à mesurer, parce que vous savez qu'on a des produits que nous importons, par exemple, qui sont consommés par les Français, mais vous avez aussi des produits qu'on importe, que les entreprises peuvent éventuellement réexporter vers d'autres marchés. Donc, ils ne font en quelque sorte que transiter par le marché. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'estimer à la virgule près, j'allais dire, la part du Made in France dans ce qui est consommé, mais on l'estime et on ne doit pas se tromper beaucoup à 3% du marché.
Donc au final, quand même, une consommation de la part des Français, des produits français, assez faible.
Oui, on consomme assez peu de Made in France parce que, en fait, aujourd'hui, il faut retenir une chose assez simple, c'est que ce qui est produit en France, il existe encore un niveau de production qui est non négligeable. Il y a des entreprises en France qui représentent des effectifs grosso modo au total d'un petit peu moins de 100 000 personnes. Donc ça, ce sont des effectifs industriels à la fois qui fabriquent des vêtements, donc dans l'habillement, et puis aussi dans l'industrie textile, plus en amont avec les tisseurs, par exemple, qui fabriquent des tissus. Et donc, on a bien sûr assisté à une désindustrialisation, comme dans beaucoup de secteurs de l'économie, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a moins de 100 000 personnes qui travaillent dans l'industrie. À la fin des années 70, on était autour de 600 000 personnes, donc presque un million. Vous voyez qu'il y a eu une désindustrialisation parce que, comme chacun sait, il y a eu les délocalisations et les coûts salariaux en France sont plus élevés, bien sûr, que dans bien d'autres régions du monde. Et aujourd'hui, les vêtements sont fabriqués principalement en Asie, en Chine notamment, mais pas seulement en Chine, hein, au Bangladesh, etc. Et puis aussi, vous avez les pays du pourtour méditerranéen, il ne faut pas oublier, vous avez des gros acteurs comme la Turquie, et puis un petit peu plus modeste, vous avez Maroc, Tunisie par exemple, et puis vous avez l'Europe où on fabrique encore des vêtements, au Portugal, en Italie bien sûr, et en France. Mais ce qui reste en France, si vous voulez, c'est plutôt destiné au marché d'exportation. Ce n'est pas consommé par les Français, mais ce sont des entreprises, par exemple dans le Choletais ou dans la région de Lyon, notamment, il n'y a pas que là, mais ce sont deux exemples importants. On va fabriquer des vêtements pour l'exportation. Et donc, de facto, plutôt des vêtements haut de gamme, en fait. Hein.
Justement, l'industrie de l'habillement français est donc plus spécialisée dans le luxe, dans le haut de gamme, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Comment s'est opérée cette transition ?
Alors, en effet, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a une époque où les vêtements consommés par les Français étaient principalement fabriqués en France, mais c'était une autre époque. On avait effectivement des marques qui avaient intégré leur industrie. Vous aviez des marques comme Cacharel, Lee Cooper, des marques existent encore, hein, Newman, Lacoste, Petit Bateau, qui avaient des unités de production intégrées dans leur business, si vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La plupart des marques, la plupart des distributeurs se sont désengagés de l'industrie pour des raisons simples, parce que les coûts salariaux sont beaucoup plus avantageux ailleurs. Et si vous voulez, le prix de revient est plus faible quand on fait fabriquer un vêtement, ne serait-ce qu'en Europe centrale ou au Maghreb, plutôt qu'en France. Donc ça, c'est le processus de désindustrialisation qui a touché le secteur textile assez rapidement à partir des années 70-80, mais qui touche aussi beaucoup d'autres secteurs de l'économie. Aujourd'hui, l'industrie en tant que telle, ça n'est que 12% du produit intérieur brut de la France, donc c'est assez faible. Les services sont beaucoup plus importants dans l'économie aujourd'hui en France. Et dans notre secteur, la distribution, les effectifs qui sont dans la distribution sont plus importants que dans l'industrie. Il y a plus de personnes, si vous voulez, dans les magasins pour vendre les vêtements que les personnes qui sont dédiées à la confection des vêtements.
Cette spécialisation dans le haut de gamme fait que consommer de l'habillement français, ce n'est pas à la portée de tous les portefeuilles. Mais selon vous, est-ce qu'on devrait changer cet état de fait ?
Alors, ce qu'on observe, puisqu'on observe le marché depuis longtemps, c'est que, et ça me paraît très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises s'intéressent davantage au Made in France. Et elles le font aussi parce que nous, les consommateurs, on est plus sensibles à ces éléments-là. Donc, une partie des consommateurs, pas tous, mais une partie non négligeable, font ce qu'on appelle le moins mais mieux. C'est-à-dire qu'on va acheter moins de vêtements, mais de meilleure qualité, qui vont durer plus longtemps. Et le Made in France a le vent en poupe dans cette recherche de produits plus qualitatifs, si vous voulez. Et ce qui m'interpelle, c'est que les entreprises s'intéressent, bien sûr, par voie de conséquence au Made in France, et elles sont de plus en plus nombreuses. ça n'est plus l'apanage du luxe seulement ou du premium ou du haut de gamme. Vous avez dans la grande distribution des entreprises qui intègrent ce qu'on appelle des capsules, donc une petite collection de produits dédiés au Made in France. Et vous avez aussi des nouvelles entreprises qui sont nées avec le digital et qui ont basé leur business model sur le Made in France. Vous avez le slip français, 1083 et d'autres qui ont basé leur mode de fonctionnement sur le Made in France et elles sollicitent les industriels français. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fatalisme. Ce qui reste aujourd'hui en France, il faut se battre pour le conserver. Il pourra certainement augmenter un petit peu, pas dans des proportions énormes, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera jamais l'industrie du textile et l'habillement telle que on l'a connue dans les années 70-80, c'est clair, mais il faut se battre pour maintenir l'existant. Et puis, un point sur lequel je voudrais revenir deux minutes, c'est que les pays voisins ont aussi beaucoup investi dans ce secteur, qui est un secteur qui permet d'employer beaucoup de main-d'œuvre. Si la Chine s'est consacrée énormément au textile, c'est parce qu'elle a une main-d'œuvre abondante et elle a besoin d'employer cette main-d'œuvre. Et donc, le textile est un gros pourvoyeur d'emplois. Donc, les autorités chinoises ont investi dans le textile. De même que les autorités turques aussi ont investi dans le secteur textile. Donc, souvent, dans l'industrie, le textile est aussi une des premières étapes du développement économique. On commence par développer le textile, après, on passe à autre chose. Et dans cette vision un peu historique des choses, on rappellera par exemple que le Japon était le premier exportateur mondial au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, après, par la suite, il est passé à d'autres productions, des valeurs ajoutées plus importantes, idem pour la Corée, etc. Et la Chine a changé son positionnement. Elle est aujourd'hui beaucoup plus consacrée à des productions un peu plus haut de gamme qu'il y a 15 ou 20 ans. Et les produits un peu bon marché sont plutôt réalisés au Cambodge, au Bangladesh, voire au Myanmar.
On peut donc considérer qu'à l'heure de la mondialisation et de la notion même d'Europe, on n'a pas à s'inquiéter d'un tel niveau d'importation de l'habillement.
Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le niveau d'importation d'habillement, d'ailleurs, est plutôt en train de diminuer puisque le marché n'est plus aussi dynamique que par le passé. On a perdu depuis 2007-2008, entre 2007-2008 et 2019, le marché a diminué de 17%, donc on a une période difficile, vous savez, avec la crise des subprimes qui venait des États-Unis, les pouvoirs d'achat des Français, les classes moyennes, par exemple, ces pouvoirs d'achat-là ont souvent été malmenés, ce qui fait qu'on a été plutôt contraint de limiter ces achats d'habillement. Et bien sûr, l'année dernière, en 2020, il y a une chute du marché drastique de 15%. Donc, les niveaux d'importation sont plutôt orientés à la baisse aujourd'hui. Mais nul doute qu'ils vont repartir, je pense, parce qu'il n'y a pas de fatalité à cette crise. Et en 2022, on va certainement connaître une meilleure dynamique des importations qui sera finalement le signe que le marché retrouve une meilleure santé.
Pour faire un petit pas de côté et revenir sur l'exportation, quelle est l'image de marque de la France à l'international au niveau justement de l'habillement ?
Alors, l'image de la France à l'international au niveau de l'habillement, elle est très bonne. On a parlé pour des entreprises comme Renault de la French Touch. En France, il y a aussi la French Touch dans la mode, bien entendu. Et par exemple, sur le marché chinois, qui est un gros marché aujourd'hui, qui sera le premier marché de la planète très rapidement, eh bien, la cote de la France, en général, pas seulement de la mode, mais de la France, qui est assimilée au pays du romantisme, avec ses fameux auteurs très célèbres. Donc, les Chinois en sont très friands et ils associent, si vous voulez, les produits français à cet art de vivre, à cette qualité de vie avec notre gastronomie, etc. On a tendance à pas tellement se rendre compte de ça, mais à l'étranger, la France a parfois et dans bien des cas une très bonne image. Et par exemple, dans la mode, c'est le cas. Donc, les produits de luxe, par exemple, sont exportés pas seulement des vêtements, hein, mais il y a aussi ce qu'on appelle la beauté ou la parfumerie sont des marques souvent de luxe qui sont exportées de façon régulière en Chine ou dans bien d'autres pays. Donc, si vous voulez, l'exportation est un relais de croissance important pour ces entreprises françaises. Le marché français n'est pas un débouché privilégié pour le Made in France, mais le Made in France, il ne faut pas l'oublier dans sa composante export, est très importante. Et la dynamique des exports, elle est soutenue. Si je mets de côté la période difficile de 2020-2021, on a, si vous voulez, régulièrement des taux de croissance des exportations de l'ordre de 5%, ce qui est énorme. quand on sait que le marché est plutôt lui orienté à la baisse. Donc l'export, c'est capital, c'est un relais de croissance central et les entreprises ont véritablement mis l'accent sur cette stratégie.
Eh bien, merci Gilles Damainveil.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode.
Merci, entretien à retrouver sur notre site internet lechantier.radio. Il est 8h30.
Le chantier.
Le festival Littérature au Centre vous invite à rencontrer des écrivains, des artistes et à découvrir un nouveau plaisir de lire. Littérature et animal. Édition spéciale adaptée en podcast. Littérature au Centre. Saison 1. Littérature et animal. À découvrir tous les jours à 19h sur le chantier.
Le chantier.
Les voies nouvelles.
On va maintenant parler avec Valérie Borsi de la rédaction du chantier d'un phénomène de société extrêmement important. On va parler des colleuses.
Vous les avez sans doute vus, ces mots en lettres capitales apposés sur un mur, sous un pont, un peu partout en France et depuis septembre 2019 à Clermont-Ferrand. Ces mots lourds de sens dénoncent les féminicides et obligent à ouvrir les yeux sur un fléau aux chiffres affolants. Derrière ces messages placardés, il y a des jeunes femmes appelées colleuses. À Clermont-Ferrand, elles sont une centaine. Nous recevrons l'une d'entre elles. Bonjour.
Bonjour. Avant toute chose, je suis désolée de vous reprendre, mais il n'y a pas que des femmes dans le collectif Clermontois et dans beaucoup de collectifs qui se veulent de plus en plus inclusifs. Il y a aussi des personnes transgenres, non-binaires, transféminines, transmasculines. Des personnes intersexes aussi. Du coup, on préfère utiliser le terme « couleureuse » au lieu de « couleuse », qui est la version en fait inclusive du mot.
Pour commencer, quelle est la genèse des couleureuses à Clermont-Ferrand ?
Moi, je n'étais pas personnellement sur Clermont-Ferrand en septembre 2019, mais le mouvement a débuté l'été 2019 sur Paris et a pris de plus en plus d'ampleur parce que ça parlait à beaucoup de personnes en France qui ont repris le concept, qui se sont organisées et qui ont décidé de reproduire pour sensibiliser à une échelle locale pour faire réaliser aux gens aux alentours que ce n'était pas uniquement à Paris et que c'était partout en France. Je pense que c'est pour cette raison que ça a pris autant d'ampleur géographiquement parlant.
Depuis votre création en septembre 2019, combien de féminicides avez-vous recensé ?
En 2020, il y en a eu une centaine. En 2019, il y en a eu plus que ça. À l'heure actuelle, en 2021, on en est à une quarantaine depuis janvier. Donc c'est quand même des chiffres assez énormes. Et on ne parle pas des personnes traumatisées à côté, que ce soit la famille, les enfants souvent, qui peuvent être présents au moment des faits, les parents, les frères, les sœurs, les amis, qui sont aussi touchés par des phénomènes qui souvent auraient pu être évités.
Racontez-nous comment se déroule une action de collage.
Alors, une action de collage, ça peut être décidée une semaine avant, la veille. Peu importe, du moment où qu'il y a une personne qui propose. À partir de là, on décide généralement d'une raison pour le collège. Ça peut être un événement qui est survenu dans la semaine, ça peut être l'histoire d'une colleureuse, ça peut être n'importe quoi, sous réserve qu'il y ait des personnes motivées pour le coller. Donc à partir de là, on sélectionne un ou des slogans qu'on va peindre sur les feuilles. Et ensuite, on se donne rendez-vous, donc en ce moment, plutôt le matin, pour ensuite aller les coller partout où on peut trouver de la place.
Comment vous procurez-vous le matériel et est-ce que vous le procurez de manière illégale aussi ?
Alors non, on se procure le matériel de manière totalement légale en allant dans un magasin pour acheter des pinceaux, de la colle, de la farine, de l'eau, de la peinture, comme toute personne peut le faire si elle en a envie.
Qui peut être couleureuse ?
N'importe qui, sous réserve d'en avoir l'envie et d'avoir contacté un collectif proche de chez soi, en tout cas à Clermont, parce qu'il y a aussi de nombreux collectifs qui sont en non-mixité choisie. D'ailleurs, certaines sessions sur Clermont le sont également, c'est-à-dire 100 personnes hommes, cisgenre, qui sont de facto refusées dans un certain nombre de collectifs féministes.
Que ressentez-vous ? Lorsque vous collez ?
Quand on colle, on se sent libre, en tout cas personnellement. On a l'impression d'être à notre place dans la rue, alors que souvent ce n'est pas le cas. Quand on rentre chez soi, on est toujours pressé, on n'est pas forcément en sécurité, alors que là, en étant à plusieurs, on se libère de ces problématiques-là, de ces insécurités, et on se réapproprie réellement notre environnement et c'est quand même assez agréable.
Quels sont les freins de vos actions ?
Les freins, c'est déjà le fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'illégal. On n'a pas le droit de dégrader, entre gros guillemets, parce que je ne considère pas une dégradation comme quelque chose qui est éphémère, l'espace public. Donc, de fait, on peut être arrêté par les policiers qui peuvent nous mettre en garde à vue, nous mettre des amendes pour nos actions. Donc ça, c'est, le plus gros frein. Sans parler, effectivement, aussi des agressions qu'il peut y avoir, comme à Montpellier, il y a quelques temps, où on a vu un automobiliste foncer sur des couleureuses. Il est d'ailleurs en procès actuellement. Ou des agressions toutes simples par des gens qui ne sont pas contents des slogans qu'on affiche, qui ne veulent pas voir la réalité en face et qui, du coup, vont taper sur le messager pour ne pas avoir le message.
Au départ, vos collages étaient axés sur les violences conjugales. Puis on a vu des collages dénoncer le racisme, l'homophobie. Quelle autre cause souhaitez-vous défendre ?
Je pense, en tout cas pour la majorité des collectifs, et en tout cas pour celui de Clermont, qu'on prenne un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qui comprend aussi les axes de l'antiracisme, de l'écologie, de l'homophobie, de la transphobie, du validisme. Toutes les discriminations, en fait, peuvent être combattues dans le prisme du féminisme parce qu'on peut être et victime de féminisme et victime de racisme et victime d'islamophobie. Il y a une citation qui est très vraie, qui est qu'une femme ne peut pas se considérer comme libre tant qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc à partir de là, se battre pour tous, c'est mieux que de se battre pour soi.
Pourquoi choisir l'affichage papier à l'heure du numérique ?
Parce que le numérique, on peut l'éviter si on en a envie. Alors que l'affichage public dans l'espace public, on n'a pas le choix de s'y confronter. On est obligé de tomber dessus à un coin de rue, quand bien même on n'a pas envie de le voir. Comme bon nombre de réalités qu'on n'a pas envie de voir, mais qui existent et auxquelles il faut être confronté pour pouvoir essayer de lutter contre.
Peut-on considérer ça comme un retour aux affiches militantes ?
Oui et non, parce que oui, c'est de l'affichage pareil. C'est fait pour dénoncer, pour sensibiliser. Et pas vraiment, parce que ça reste un format différent qui peut prendre beaucoup plus de place et qui va s'étaler dans des endroits où on ne les attend pas, ce qui est le but pour nous aussi.
Aujourd'hui, vous n'êtes rattaché à aucun parti politique. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'il y a des personnes victimes de sexisme, quelle que soit l'orientation politique, quels que soient les enjeux. En tout cas, là, je parle en mon nom personnellement. Je n'ai pas envie qu'une personnalité publique, politique, puisse se réapproprier les combats qui sont le combat de minorités de genre comme argument électoral. En tout cas, là, je parle en mon nom personnellement. Je n'ai pas envie qu'une personnalité publique, politique, puisse se réapproprier les combats qui sont le combat de minorités de genre comme argument électoral.
Certains partis politiques ont-ils tenté de vous absorber ?
J'en ai pas entendu parler, donc je ne pense pas que ce soit arrivé. Mais je ne peux pas me prononcer de manière certaine.
En quoi les couleureuses sont-elles militantes ?
Je pense qu'on est intrinsèquement militantes parce qu'on est touchées par les phénomènes qu'on dénonce, que c'est notre quotidien, c'est pas réellement un choix, c'est plutôt une décision pour faire face à ce qui se passe dans le monde partout et en France aussi.
Pour vous aujourd'hui, que signifie être militant ?
Ça signifie à la fois beaucoup et pas grand-chose, dans le sens où je considère pas qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire. On fait ce qu'on peut, comme on peut, quand on peut. Et si pour les gens, ça s'appelle du militantisme, ça me va très bien. Mais ce n'est pas un exploit, c'est à la portée de n'importe qui. Et je trouve ça bien que de plus en plus de gens s'y intéressent.
En tant que militante, voyez-vous une évolution du militantisme par rapport à la figure du 68ard ?
Peut-être par rapport à la reconnaissance de plus de monde en tant que porte-parole. Ça peut être n'importe qui. C'est pas forcément des hommes, encore une fois, qui souvent sont les porte-parole de beaucoup de mouvements. Là, on parle de personnes, soit de personnes qui s'identifient comme femmes, soit d'autres minorités de genre. Et ça donne aussi de la visibilité à des personnes qui n'en ont pas en temps normal. Donc je pense que c'est aussi en ça que le mouvement des collages se détache des autres, par son inclusivité. En tout cas, j'espère.
Merci d'avoir répondu aux questions du chantier.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. C'était Valérie Borsi aux questions. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet lechantier.radio. Dans quelques minutes, juste après Bertrand Betch, on va parler industrie culturelle avec Romain Barre du cluster Le Damier à Clermont-Ferrand. Le Damier qui lance la deuxième saison de son incubateur. Bertrand Betch.
C'est l'horizon au détour. C'est des gens qui font l'amour. C'est des enfants dans le jardin. C'est la douceur d'un matin. C'est des midis à des minuits. C'est des jours dans nos nuits. C'est des regards de connivence. D'un reste d'insouciance. C'est presque rien, mais ça fait du bien. C'est presque rien, mais ça fait du bien. Des hommes dans le silence, c'est ta présence dans l'absence, c'est les yeux dégagés, c'est l'insolence d'un été. C'est dans le ventre comme un chant, c'est un grand coup de vent. C'est un sourire arraché à la griffe du passé.
Chantier, nous nous sommes intéressés aux nouvelles initiatives du territoire, comme le Damier, un incubateur local qui a été créé depuis 2011. Un cluster qui représente, assure la promotion, fédère et contribue au développement des entreprises culturelles et créatives en Auvergne. Pour nous en parler, nous recevons Romain Barre, chargé d'accompagnement des entreprises. Bonjour Romain.
Bonjour.
Pourriez-vous nous définir ce que c'est un incubateur, ce qu'on y fait, ce qu'on y trouve ?
Alors l'incubateur UBIC qui est porté par le Damier, c'est un programme d'accompagnement des entreprises culturelles et créatives, c'est-à-dire qu'on aide les gens à passer d'une idée, à concrétiser une idée pour la transformer en entreprise.
Quel est le profil des incubés qui bénéficient de vos programmes sur le territoire ?
Alors les projets que nous cherchons pour cet incubateur sont évidemment des projets qui rentrent dans le champ de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, donc qui est un champ assez large, hein, qui recouvre une grosse quinzaine de secteurs qui vont de la musique, de l'événementiel, de l'audiovisuel, de la littérature, de l'architecture et j'en passe, parce que la liste est un peu longue, et qui portent ce qu'on appelle des projets innovants. En tout cas, nous, on prend le mot innovant au sens assez large, c'est-à-dire des services, des produits qui n'existent pas encore ou des manières d'entreprendre. Donc ça va de l'innovation technologique, évidemment. Souvent, c'est comme ça qu'on la voit, mais on peut aussi parler d'innovation sociale, d'innovation d'usage, d'innovation de service. Donc voilà, nous, on recherche des initiatives, des gens qui ont des idées un peu nouvelles et qui veulent transformer ça en entreprise.
Pourriez-vous nous préciser les objectifs du Damier ?
Alors, le Damier, lui, c'est donc la structure qui porte cet incubateur UBIC. C'est un cluster d'entreprises culturelles, c'est-à-dire que c'est une association, loi 1901, dont les adhérents sont des entreprises qui travaillent dans ce secteur d'industrie culturelle et créative. Les objectifs, il y en a quatre. C'est fédérer d'abord ces gens-là pour qu'ils se connaissent mieux, pour qu'ils travaillent ensemble. On a un réseau de compétences. C'est aussi promouvoir cette filière des industries créatives comme une vraie filière économique, c'est innover, c'est-à-dire qu'on porte un certain nombre d'actions qui font le lien entre le monde de la recherche, le secteur créatif, les entreprises et les nouvelles technologies souvent. Et le dernier objectif, qui n'est pas des moindres, c'est de développer. On est avant tout un acteur du développement économique de cette filière-là. Et donc on aide nos adhérents dans un premier temps. On les aide à se développer, c'est des entreprises existantes, mais on les aide à porter des nouveaux projets. Et au-delà de ça, notre rôle, c'est d'accompagner, de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises dans ce secteur-là. Et du coup, l'incubateur UBIC, évidemment, est le fer de lance de cet axe-là.
Que peut apporter un incubateur comme le Damier dans la région ?
Alors, UBIC, c'est le premier incubateur dédié au secteur culturel dans notre région, en tout cas sur la partie Auvergne de notre grande région. L'idée, en fait, c'est d'avoir un endroit qui soit spécialisé dans ce secteur-là. Il se trouve que c'est un secteur qui a un certain nombre de particularités, aussi bien au niveau de la manière d'entreprendre, de façon un peu générale, mais plus particulièrement, qui a pas mal de particularités, je pense notamment juridiques. L'intermittence, c'est une particularité du secteur culturel que beaucoup ne connaissent pas et c'est normal. Donc voilà, on n'est pas le seul incubateur, hein. On est en réseau d'ailleurs avec tous les incubateurs de la métropole et on se connaît tous très bien, chacun a ses spécialités. Nous, la nôtre, c'est le secteur culturel. Donc on apporte cette expertise métier-là.
Quelle valeur incarne le Damier ?
Alors le Damier, c'est un réseau d'entreprises dans lequel chacun est acteur de sa mobilisation au sein de ce réseau. On n'est pas seulement un club d'affaires comme on peut connaître des BNI par exemple, ou des choses comme ça. On favorise le développement des entreprises, mais les entreprises aussi sont partie prenante des projets qu'on porte. Je pense à un événement qu'on fait autour d'un marché de la musique qui s'appelle le MIMA, qui est porté par nos entreprises qui travaillent dans le secteur musical. Si je reprends l'exemple de UBIC, on en parlera sans doute au niveau du programme, il y a des mentors qui encadrent les incubés qui sont des chefs d'entreprise expérimentés. Là, il y a nos adhérents qui sont mobilisés pour venir encadrer, donner du temps pour aider ces jeunes porteurs de projets.
Le 22 juin, vous nous invitez à découvrir un de vos nouveaux programmes UBIC. Cette année a été particulière. En quoi ce nouveau programme d'accompagnement a-t-il évolué ?
Alors, c'est notre second appel à candidature qu'on lance effectivement le 22 juin à partir de 18h à Turing 22. Et donc on a fait le bilan de notre première édition qui était pour nous un petit peu notre expérimentation de ce programme qui a un bilan plutôt très positif. Donc on est déjà très content de cette première édition qu'on a fait évoluer vraiment à la marge. Et c'est à l'intérieur du programme, des formations, des ateliers, qu'on a bougé quelque chose. On a changé un tout petit peu le rythme, même si la durée du 8 mois reste la même. Voilà, on a sélectionné aussi des nouveaux mentors, enfin voilà, on a changé quelque chose, mais c'était presque du détail, entre guillemets, c'est une recette interne qui évolue à quelques ingrédients près, mais la recette générale n'a pas beaucoup bougé par rapport à la première édition.
Pourquoi l'avoir créé, Ubique ?
Alors, Ubique a été créé par une volonté de plusieurs acteurs, notamment de Clermont-Auvergne Métropole, qui nous soutient sur ce projet-là et qui, en fait, a fait le constat qu'il manquait un endroit, justement, qui soit spécialisé dans ces métiers-là, qui puisse aider les entrepreneurs culturels. Entreprendre dans la culture, c'est qui était pas naturel, qu'il devient un peu, mais les entrepreneurs ont besoin d'un endroit où, justement, ils puissent être accompagnés de façon assez précise, comme je le disais, par rapport à toutes ces spécificités-là, et avoir une écoute. Il y a d'autres incubateurs, il y a d'autres structures d'accompagnement à la création d'entreprises, mais qui sont souvent des généralistes ou spécialisés dans d'autres domaines. Et il fallait, à un moment, une structure pour porter cet accompagnement-là, et avec cette connaissance des métiers-là. Et donc le Damier était très bien placé pour porter ce projet, et donc on a créé l'incubateur au sein du Damier.
Que faut-il retenir de ce programme, Romain ?
Alors le programme de l'incubateur Ubique, il dure 8 mois et c'est l'idée de passer de une idée à la création d'entreprise. Donc on a tout un tas d'ateliers, de formations, mais aussi donc qui sont très concrètes, hein, qui sont vraiment liées au projet. On ne fait pas des cours théoriques, hein, on est vraiment sur les projets de chacun. On travaille sur les projets de chacun, au départ effectivement sur la formalisation de l'idée, sur voilà, comment on présente son idée, comment on l'affine. Et puis après on va sur tout ce qui est modèle économique, évidemment recherche de financement, et puis voilà comment après on crée la structure. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le tronc commun. Mais il y a aussi plein de moments un peu à côté qui sont qui peuvent être des moments inspirants de chefs d'entreprise qui viennent présenter leur parcours, qui sont des moments de réseau aussi, et c'est tout l'intérêt d'être au sein du Damier que de porter cet incubateur là parce que voilà, on a aussi toutes nos 50 adhérents entreprises avec lesquels on fait des moments soit conviviaux, un peu des moments de réseau, networking et tout ça, et du coup nos incubés peuvent profiter et intégrer ces réseaux là Et il y a aussi, évidemment, comme souvent dans les incubateurs, et c'est très important, les mentors qui sont des chefs d'entreprise expérimentés qui aident un projet de l'incubateur. Alors souvent, c'est plutôt une aide, on va dire, morale. C'est un soutien aussi dans des moments qui peuvent être un peu difficiles. Quand on crée une entreprise, on peut avoir des moments de doute, etc. Et le mentor est vraiment là pour ça, pour soutenir moralement ses porteurs de projet. Et ça, c'est très important, parce que nous, on apporte une forme de technicité, des compétences, des nouvelles compétences, etc. Et le mentor, lui, est vraiment là pour plutôt encadrer sur d'autres moments où là, nous, on est moins. Donc voilà, c'est une somme de choses, de vraiment liées sur les compétences, sur ce qu'on appelle les soft skills aussi, sur voilà, les à côté un peu au niveau un peu entre guillemets moral avec le mentor, et puis de l'expérience par le croisement d'autres entrepreneurs déjà installés, etc., pour aussi les acculturer à ce que c'est d'être entrepreneur.
Avez-vous le sentiment que les choses ont évolué en ce qui concerne la situation des artistes et créateurs émergents ?
Alors, ça dépend depuis quand on se place. Typiquement sur l'entrepreneuriat culturel, ça fait plusieurs années qu'effectivement les choses changent un peu. Déjà, le terme entrepreneuriat culturel est utilisé de plus en plus souvent depuis quelques années, mais c'est vraiment assez récent. On voit même les termes aujourd'hui d'artiste-entrepreneur. Donc, l'idée de aussi, je pense que derrière ça, il y a aussi l'idée d'indépendance. Je pense que les artistes qui veulent aussi garder la maîtrise de leur création, à un moment, doivent passer par cette démarche entrepreneuriale. Alors, je ne dis pas que c'est une création d'entreprise, ça peut être aussi des associations, qui est une forme juridique qui peut aussi très bien fonctionner pour certains. Mais en tout cas, de garder la maîtrise de leur projet de A à Z. Et mine de rien, créer sa propre structure, c'est aussi garder la main sur les choix qui soient artistiques, mais aussi potentiellement stratégiques, des choix de carrière, etc., etc.
Je vous remercie, Romain Barre, d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Je rappelle que le 22 juin à 18h, vous donnez rendez-vous aux entreprises, donc au Turing 22.
Voilà, c'est aujourd'hui. Merci. Entretien réalisé par Aïcha Nouri de la rédaction du Chantier. Dans quelques minutes, il sera 9h. On se quittera pour la journée, jusqu'à demain. Et vous avez rendez-vous avec l'information et le journal de Radio France Internationale. Merci d'écouter Le Chantier, très bonne journée.
Le chantier.
Le chantier présente La mort en Arabie. Récit sonore de la première expédition scientifique au Yémen. Janvier 1761.
Peu après mon arrivée à Copenhague, deux membres rejoignent l'expédition. Un dessinateur pour faire des croquis précis et un médecin pour assister Forgecol.
Le but de cette expédition, un pays inconnu, qu'à l'époque on nomme encore l'Arabie heureuse.
Nous sommes au large du détroit de Gibraltar. Nous avons supporté un hiver de tempête dans les mers du Nord. Nous voilà désormais dans le printemps méditerranéen, vent tiède du Sud et journées ensoleillées.
La mort en Arabie, par Théophane Berthuis. Une épopée sonore en 12 épisodes. Tous les jours à 17h30 sur Le Chantier.
Le Chantier.
Les voix nouvelles.